Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Ouais, Flavien, t'avais fini?
Il y a encore toujours.
Je viens, je te vois là. Ça va. Okay. La semaine prochaine, hein?
Oui, oui.
Ok. On va improviser. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions de ce que tu nous permets ce soir de nous assembler au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous savons que si nous nous assemblons en ce nom, nous pouvons bénéficier de ta présence et de tout ce que tu as mis en réserve pour nous en ce jour. Aussi, nous nous attendons à toi et nous prenons une attitude révérencieuse. Et nous sommes là avec crainte, sachant que le Saint lui-même est au milieu de nous. Rends la communion possible, toi et nous, que tu nous fasses grâce et que ta bonté nous soit favorable. Te remercions pour ce moment où nous te demandons de bien vouloir nous inspirer quelque chose afin que celui qui a besoin d'instruction puisse être instruit, savoir comment marcher, comment se saisir des promesses que tu as faites, celui qui a besoin de guérison, qu'il puisse l'obtenir, celui qui est tombé, qu'il soit relevé, celui qui est debout, que tu l'affermisses. Que tu fasses tout de manière à ce que nous puissions encore chanter, proclamer ta gloire parmi nous. Pardonne-nous nos péchés. Lave-nous avec le sang qui a coulé au calvaire, que nous soyons purifiés de nos mensonges, de nos dissimulations, de nos mauvaises œuvres. Tout ce que nous avons fait, pensé ou dit, qui ne t'est pas plu. Tout ce que nous avons décidé, qui ne t'a pas plu. Que tu annules ces décisions. Que tu nous fasses prendre la bonne direction. Par ton Esprit Saint. Nous nous attendons à toi pour ce moment. Nous te remettons aussi les réunions. La réunion qui aura lieu tout à l'heure, en ce lieu même. Que les cœurs qui seront présents soient préparés. Géographiquement présents ou pas, partout où l'on invoquera ton saint nom, que les cœurs soient unis et en accord. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons dans Juges 16. Les versets 4, 5 à 6. 4, 5, 6. Et puis nous lirons dans Jean 14. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Jean 14. Versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous nous asseoir. Dans Juges, nous voyons cette particularité du croyant d'être une grande énigme pour les incroyants, pour les gens du monde. Ce sont des gens, quand on les regarde, comme on dit, ne payent pas de mine. Leur apparence, souvent, n'a rien pour plaire. Mais ce sont des gens particuliers. Ils sont munis d'une force particulière. La force que Samson avait était une force... était un mystère pour les Philistins. Tout comme vous, en tant que chrétien, votre force est un mystère pour les incroyants. On va intituler juste, selon Jean 14, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est un consolateur, comme nous venons de lire. Ce qui fait, lorsque vous tenez devant des situations compliquées, des situations difficiles, les gens se demandent encore comment vous faites pour rester debout. Mais c'est parce que en vous, vous avez quelqu'un qui vous console, qui vous fortifie au moment où vous êtes le plus faible. Vous savez, la disposition d'un chrétien, même Satan ne la comprend pas. Dans Job ne savait pas ce qu'il y avait en Job. Lorsqu'il est venu, dans Job 1er, verset 6, Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « En fait, s'il est comme ça, s'il te craint, c'est Ce n'est pas de manière désintéressée. C'est parce que tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face, je suis certain qu'il s'écroule. Mais il ne s'écroule pas. Amen. Satan a essayé d'abord parler bien. Job restait debout. Il est allé jusqu'à ses enfants. Job restait debout. Comment fait-il pour rester debout? On ne sait pas. Samson, c'était quelqu'un qui vivait un peu comme tout le monde. Dans Deutéronome 7, Dieu demandait aux enfants d'Israël de ne pas aller contracter des mariages ailleurs. Verset 3, Dieu dit à Israël, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples que Dieu a chassés devant lui. Les Hittiens, Guirgaziens, c'est vrai que les Philistins ne sont pas mentionnés, mais si vous regardez dans Josué 13, vous les verrez, les Philistins. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Vous savez, Samson avait un pacte avec Dieu. Le pacte, c'était quoi? Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. C'est tout ce que Dieu lui a demandé. Plus la loi, bien sûr, la loi, c'était pour tout le monde. Mais il y avait un pacte particulier entre Samson et Dieu.
Amen.
Dans Juges 16, verset 13. Verset 5. Dieu dit ceci à la maman de Samson, à la future maman de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. C'était dit en secret entre Dieu et la maman de Samson. Personne d'autre ne savait quel était ce secret. C'est cette relation particulière que chacun doit avoir avec son Dieu. Où personne d'autre ne sait exactement ce qu'il en est. Seulement vous et Dieu. Et chaque homme est particulier devant Dieu. Vous savez, quand le Seigneur appelait Samuel, c'était particulièrement pour Samuel. Et Élie avait compris. Élie dit à Samuel, va à ta place, j'aime bien ça. Hein? Vous savez, allez à votre place, à Samuel. Moi j'aime ça. Samuel. Chapitre 3. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Élie, c'est quelqu'un qui avait aussi une expérience avec Dieu. Même s'il ne conduisait pas bien ses enfants, il était un peu mou avec ses enfants, mais Élie, il connaissait Dieu. Élie le sacrificateur. Et Samuel était là. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Qui a entendu cela ? Samuel lui-même. L'appel est individuel. Et il courut vers Élie. Élie ne va pas venir dire à Samuel, « Écoute, on t'appelle. » Parce qu'Élie n'a pas entendu. C'est Samuel qui a entendu. Quand Dieu vous a appelé, vous êtes le seul à avoir entendu. Si vous n'avez rien entendu, si Dieu a appelé maman, eh ben c'est maman que Dieu a entendu. Si Dieu a appelé l'épouse, eh ben c'est l'épouse que Dieu a entendu. Mais il faut que Dieu vous appelle aussi. Et priez pour qu'il appelle vos enfants. Ne faites pas l'appel à la place de Dieu. Laissez Dieu faire le travail. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il croyait que c'était Élie. Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. J'ai peut-être rêvé. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Quand Dieu vous appelle, vous pouvez avoir sommeil comme vous voulez. Vous ne dormirez pas. Il ne vous laissera pas dormir. Si vous dormez, c'est qu'il ne vous a pas appelé. Quand Dieu vous réveille, pour que vous veilliez avec lui, vous serez réveillé. Ah, frère François, je tombe de sommeil. C'est qu'il n'y a pas encore ce contact-là. C'est que vous priez devant les murs. Attendez que l'Esprit lui-même vous réveille. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, mais Élie le connaissait. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, très important, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Frère Branham insistait souvent là-dessus, sur votre place. Votre place du devoir. Vous ne lâchez jamais cette place. Comme Habacuc le dit, j'étais à mon poste afin d'entendre la réponse de l'Éternel. Restez à votre poste. C'est là que vous entendrez la voix de Dieu. N'allez pas ailleurs. Et ici, comment il s'appelle, Samson? Samson avait cette relation-là. Sa mère, l'Église, a dû lui dire, prédication, de ne jamais passer le rasoir sur sa tête. Et il savait que cela le concernait. Et tant que le rasoir ne passait pas sur sa tête, c'était à tout autre homme. Différent. Il est allé chez une prostituée. Il est allé se marier ailleurs alors que Dieu a dit « Tu ne contracteras point de mariage. » Il est allé faire tout ça. Mais Dieu conduisait ses pas. Vous savez quoi ? Même quand il est parti se marier là où il ne fallait pas, là où Dieu avait refusé, la Bible dit « C'était selon un dessein de Dieu. » C'est Dieu qui a... Donc, quand il est parti se marier, c'est Dieu qui cherchait une occasion pour cogner sur les Philistins. Et c'est pareil pour vous. Vous n'êtes pas sans force dans le monde. Nous marchons dans un monde où nous devons affronter beaucoup de tribulations. Nous avons beaucoup de combats. Nous avons beaucoup de situations compliquées. Maintenant, Jésus nous promet quelque chose. Il nous promet un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Nous le savons. Luc 24, 49 nous dit que le Saint-Esprit est une puissance. C'est la promesse du Père. Le problème n'est pas la façon dont vous priez. Le problème n'est pas la façon dont vous prêchez. Le problème n'est pas la façon dont vous chantez. Le problème, la puissance est dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre genre de musique que vous aimez. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre genre de prédication que vous aimez. Ce n'est pas ça que vous aimez. Mais le problème, c'est le Saint-Esprit. Votre force, c'est lui. Et le monde ne le connaît pas. C'est une puissance cachée au monde. C'est une puissance que vous seul, vous savez qu'il existe. C'est une puissance qui, au milieu des gens, lorsqu'elle agit, vous savez seul, au milieu de ces gens-là, que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous pouvez, comme la maman de Samuel, vous pouvez prier en esprit. Samuel, qui était un homme de Dieu, Élie, qui était un homme de Dieu, il pensait même qu'elle était ivre. Vos frères, vos sœurs de l'assemblée vont peut-être penser que vous êtes ivre. Mais elle, elle savait que ce n'était pas ça. Et vous, vous devez savoir que ce n'est pas ça. Nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. On peut vous reprocher la manière dont vous vous êtes comporté dans l'assemblée. Mais si c'est le Saint-Esprit, continuez à aller de l'avant. Si on vient vous reprocher, dites que Dieu te bénisse. Mais vous savez qui vous a conduit à faire cela. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, c'est peut-être l'autre esprit. Il faut voir où vous en êtes. Donc, le monde ne le connaît pas. C'est une puissance telle que ça vous change un homme de peureux à un brave. Le frère a parlé de l'histoire de Jonas ici, mercredi, où un éminent professeur a voulu démontrer qu'il n'existait pas de poisson qui pouvait avaler, n'est-ce pas, quelque chose d'aussi grand qu'un homme. Ça n'existait pas. Il est venu avec le squelette d'une baleine, un énorme squelette, mais avec une balle de tennis qui n'arrivait pas à faire passer par le gosier. Il a dit, vous voyez, c'est impossible. C'est une histoire impossible. Mais ça, c'est ce que l'homme, l'intelligent, sait. Et si vous, vous êtes dans la salle, vous, vous savez que l'histoire de Jonas est vraie. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas vous aider, vous allez rester cloué à votre chaise, vous allez regarder, vous en parlerez à vos frères après à l'assemblée. Je suis parti à une conférence là. Il y a un professeur qui a parlé de l'histoire de Jonas. Il a dit que c'était impossible. Mais si le Saint-Esprit est avec vous, ce n'est pas à l'assemblée que vous allez le dire, c'est dans la salle de la conférence même. Vous allez affronter cet esprit intelligent qui est là, intelligent selon le monde, le Saint-Esprit va le clouer. Amen. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Amen. Vous savez, quand les disciples, quand Jésus est ressuscité, il leur a dit, vous serez mes témoins. Est-ce qu'ils étaient prêts à partir? Je ne pense pas. Je crois même qu'ils ont été soulagés quand Jésus leur a dit, attendez. Amen. Parce que s'il leur avait dit, allez dire par le monde entier que je suis ressuscité, la résurrection, c'était quelque chose d'inhabituel. Aller dire ça au monde entier, que Jésus-Christ est ressuscité, c'était inhabituel. Alors, je crois, Pierre a dû pousser un ouf de soulagement quand il a dit, mais attendez, attendez la promesse du Père. Attendons. Et les autres, ils pouvaient se dédouaner disant, de toute façon, la clé du royaume a été donnée à Pierre. C'est à Pierre de le faire. Gloire à Dieu. Comme beaucoup restent assis, c'est le problème du pasteur. C'est au pasteur de le faire. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le pasteur. C'est pour chacun qui se repent. Pour qui? Pour vous. Pour qui d'autre? Pour vos enfants.
Alléluia.
Pour qui d'autre? Pour les autres qui sont au loin. Amen, amen. Combien? En aussi grand nombre. Amen. Que Dieu les appellera. Pierre était un froussard, un peureux. Il n'a pas su tenir tête à une servante. Alors qu'il était avec un frère, un disciple, un autre disciple du Seigneur, qui lui avait des relations, ce disciple-là. Ce disciple-là, il connaissait bien le souverain sacrificateur. Quel disciple, je ne sais pas. Regardez, Jean 18. Ce qui a permis à Pierre d'entrer dans la cour. Sinon, il n'allait jamais oser d'entrer. Regardez, il est resté à la porte. Hein. Verset 15. Simon Pierre, avec un autre disciple, ça va? Suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Donc ce disciple, de par ses relations, il se sentait un peu à l'aise. Hein. Il est entré dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre, qui se sentait tout petit, il n'a pas osé entrer. Pierre resta dehors près de la porte. Un frère, bon, Dieu te bénisse. Je reste ici à la porte. Alors le frère le regarde. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit. Par là, la portière. Il connaissait tout le monde, là, celui-là. Et fit entrer Pierre. Ah, Pierre, tu peux entrer. Dites amen à ça.
Amen.
Ah, c'est chouette quand on a des frères qui peuvent vous ouvrir des portes comme cela. Vous pouvez entrer. Dieu pourvoit toujours. Et Pierre est entré. Mais il est entré, il fallait qu'il entre pour que la prophétie s'accomplisse. Que le coq devait, il allait nier. Trois fois le Seigneur avant que le coq ne chante. Alors, juste au moment où il entre, la servante, la portière, dit à Pierre, ce qui est bizarre, c'est que la servante, le disciple qui est venu parler à la servante, qui était aussi quelqu'un qui était avec Jésus, puis c'était un disciple, ce disciple-là, la servante ne lui dit rien, mais seulement Pierre. Elle dit à Pierre, toi aussi, elle le voit entrer, mais toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Ah. Pierre pouvait lui demander, mais pourquoi tu n'as pas demandé à l'autre? Oui, il dit, je n'en suis point, je ne suis pas son disciple. Les serviteurs, les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Passons. Parce que, allons au verset 24. Vous pouvez lire la suite. C'est ce que je voudrais mettre en exergue. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. L'envoyait Jésus lié. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia. Il dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, ah, c'est toi qui as coupé l'oreille de mon cousin. Dit, tiens, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Toi, tu étais là, non? Pierre le nia de nouveau. Dit, c'était pas moi. Alors qu'il était très fanfaron. Et aussitôt, le coq chanta. Après qu'il ait nié trois fois. Mais quand le Seigneur est ressuscité, ils étaient tous cloîtrés là-bas à Jérusalem, dans cette chambre haute, n'osant pas trop sortir. On vient leur annoncer la bonne nouvelle. Dans Luc 24, Jésus est ressuscité. On a vu des anges, ils nous ont dit qu'il est ressuscité. Il nous attend en Galilée. Il va en Galilée. Et ils ont entendu cela. Qui est sorti de la chambre, de l'endroit où ils étaient pour aller dire, vous savez, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Personne. Ils ont tous eu peur. Ils n'ont pas osé le faire. Il y a même, pour ne pas trop être mêlé à ça, Cléopas et l'autre, rentrons parce que ça risque de chauffer. Amen. Et ils sont rentrés. Et ils sont partis. Bon, mes bien-aimés, nous partons. Nous partons. Nous rentrons à Emmaüs. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. S'il y a un problème, ben, on se verra la prochaine fois. Donc, à la fête de il y a Pentecôte. Ben, à la Pentecôte, on se verra. On reviendra pour adorer. Ils étaient peureux. Et je ne sais même pas s'ils chantaient tout haut, s'ils avaient mis des baffles lorsqu'ils chantaient. Ils devaient chanter en silence. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là que les peureux qu'ils étaient, ils sont devenus des hommes nouveaux. D'autres hommes. Samson dit, si on me rase la tête, je serai comme tout autre homme. Tant que Samson avait ses cheveux sur la tête, c'était un homme particulier. Qu'une Delilah pouvait lier. S'il rasait la tête. Il était chez Delilah, tant qu'il avait ses cheveux, personne ne pouvait rien lui faire. Même pour Delilah, s'il était un mystère. Comment est-ce possible cet homme maigre qu'il était a pu soulever une porte d'airain à Gaza pour sortir et aucun Philistin n'a pu faire quoi que ce soit. Or, les Philistins, c'était des géants. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été revêtus d'une autre puissance. De la puissance d'en haut. Alors, cette puissance d'en haut pouvait non seulement les faire entrer, peut-être pas dans la cour du souverain sacrificateur, mais carrément dans le Sanhédrin. Amen. Actes chapitre 5. Quand le frère a parlé de cela, mercredi, de Jonas, ça m'a rappelé une autre histoire que frère Branham raconte. C'était une, Des parents qui avaient porté plainte au tribunal contre un prédicateur. Que le prédicateur avait prêché sur la guérison divine. Et l'enfant était handicapé. Il était infirme. Il ne marchait pas. Et il s'est senti poussé à prier, poussé par l'esprit à prier pour l'enfant. Il a prié pour l'enfant. Et il lui a dit, quitte ta chaise là où tu es et marche, viens ici. Et il s'est levé, il a commencé à marcher. Il a marché, c'était des cris dans la salle. Restez calme, parce que quand vous allez pousser des cris, vous allez effrayer la personne. Il a fait quelques pas, et pour arriver presque au pupitre, il s'est écroulé à nouveau. Alors, les parents se sont fâchés, se sont plaints. Ils ont dit qu'ils ont donné de faux espoirs à cet enfant. Et ils ont porté plainte. Le prédicateur a été convoqué au tribunal. D'arriver là au tribunal et... Le réquisitoire du juge, c'était fameux. Même de l'avocat, des parents, c'était fameux. Alors, le prédicateur, il savait quoi dire. Il est resté là assis, là où, au banc des accusés. Alors, sa seule réponse était non. Moi, je suis prédicateur, je prêche la parole et je crois en la guérison divine. Cet enfant a eu la foi et il a perdu quand il est retombé. Moi, je sais que Dieu guérit. Le juge le regarde et lui dit, écoute, si tu peux me montrer un seul passage dans la Bible. Les Américains, ils sont croyants. Un seul passage dans la Bible. Où il y a un cas pareil, où quelqu'un est guéri, et puis, quelques secondes après, il retombe, je t'acquitte. Le prédicateur, lui, n'avait pas de passage. Lui demander ça comme cela, sans qu'il ne s'y attende, c'est compliqué. Alors, il y avait un vieux monsieur, un croyant, au fond de la salle, qui avait suivi le débat. Il a levé sa main, tremblante, non pas tremblante de peur, mais tremblante de vieillesse. Il a levé sa main. Il dit, moi, j'ai trouvé, moi, je connais un passage où c'est le cas. Le juge lui dit, je vous écoute. Il dit, je connais un endroit, un jour, une barque, où les disciples étaient dedans. Jésus-Christ venant derrière eux. Ils ont gardé, ils ont cru à un fantôme. Ils marchaient sur l'eau. Pierre a posé la question, je peux venir? Là où tu es, Jésus lui a dit, viens. Il est venu, il a marché sur l'eau. Et quand il a eu peur, il s'est enfoncé. Le juge a acquitté le prédicateur. Gloire à Dieu.
Amen.
N'ayez pas peur. Et le Saint-Esprit est celui qui vous dit ce qu'il faut dire.
Amen.
C'est lui qui vous conduit dans toute la vérité de la parole.
Amen.
Dans Actes 5, les disciples, vous savez, partout ils allaient, alors que ils avaient peur au début, mais après, ils sont devenus de vaillants hommes. Et quand ils prêchaient, ils ne prêchaient pas en ayant peur. Dans Actes 5, c'est devant tout un Sanhédrin réuni qui se sont retrouvés. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais on les jette en prison, mais un ange du Seigneur, quand on vous dit que les anges agissent, il y a des anges peut-être au milieu de vous ce soir. Vous en avez peut-être croisé dans la rue. Comme la fois passée, je vous ai dit, vous pouvez ne pas avoir, vous avez peut-être perdu la marche, vous avez la course difficile, vous courez après votre bus ou votre tram, il est là-bas au loin, mais vous n'arrivez pas à courir. Mais si c'est pour aller à un endroit où Dieu veut que vous alliez, ou si c'est pour rentrer chez vous après que vous soyez venu, n'est-ce pas, là où Dieu a voulu que vous soyez, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu va provoquer que le bus vous attende. Comment cela? Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, il va courir après le bus. Il va venir, il va s'arrêter devant la porte du chauffeur et il va dire, il y a monsieur qui vient. Si c'est une sœur, il va dire, il y a une dame qui vient. Et le chauffeur va l'attendre. Dites amen à ça. Et le chauffeur va l'attendre. Et vous allez entrer, vous dites merci au chauffeur. Merci chauffeur. Mais dites merci à Dieu. Amen. Vous ne savez pas si ce monsieur-là, ou si cette dame-là, ou cette jeune fille, ce jeune garçon, si ce n'était pas un ange. Parce qu'après, une fois installé, si vous regardez, vous ne le voyez peut-être même plus. La personne qui a arrêté le bus pour vous. Oui. Non, ici, ils étaient en prison. Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit. Vous savez, cet ange, il a ouvert les portes et puis il les a refermées. Ben oui, regardez, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. N'ayez pas peur. Annoncez la parole. Prêchez la parole. En toute occasion. Favorable ou non. Prêchez. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. L'ange l'a dit. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, écoutez, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, verset 27, on saute. Ils vont s'étonner, ils ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Au verset 27, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il vous parle de résurrection. Que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et vous savez quoi? Quand ils annonçaient ça, c'était avec assurance. Ce n'était pas en tremblant. Dans Actes 4, 31, nous disons, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit vient, enlève la peur, bannit la peur. De foussard que vous étiez, vous devenez brave. Amen. Le Saint-Esprit fait de vous une personne différente. Il vous sort de la classe des mammifères. Dites amen à ça. Avec le Saint-Esprit, vous n'êtes plus un mammifère. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous êtes un mammifère. Yes. Dans le règne animal. Vous pouvez dire que vous êtes le plus évolué des animaux, mais ça, c'est votre problème. Vous êtes différent. Comme David, animé par l'Esprit, était différent de David tout court, du roi David, du chef des armées, de l'armée. Il était différent. Il fallait qu'il soit animé de l'Esprit. Dans Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit ?» Il fallait qu'il soit animé par l'Esprit. Parce que David, tout seul, c'était quelqu'un plein de convoitise. David, tout seul, il avait plein de trucs au-dedans de lui. Animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Quand il est animé par l'Esprit, il parle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand vous passez par des moments difficiles, le Saint-Esprit est un consolateur. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14. Il est un consolateur. Le rasoir de Samson n'était pas permanent. Il suffisait que Samson, n'est-ce pas, vende la mèche pour qu'il perde toute sa force. Par contre, avec le Saint-Esprit, Jésus dit, ce qui est arrivé à Samson, une fois que la promesse du Père vous est accordée, ce qui est arrivé à Samson ne vous arrivera pas. Parce que dans Juges 16, si vous continuez à lire dans Juges 16, vous allez voir, Samson ne s'est pas rendu compte que Dieu s'était retiré de lui. Dans Jean 14, nous relisons donc au verset 16, il dit, « Et moi, je prierai le Père. » Et quand vous lisez dans Jean 11, il dit, « Le Père l'exauce toujours. » Donc, cette prière-là qu'il fera au Père, Dieu l'exaucera certainement. Et il vous donnera un autre consolateur pour que ce consolateur demeure avec vous éternellement. Même au-delà de la mort. Éternellement. Vous ne pouvez pas perdre cette puissance. C'est pourquoi l'apôtre peut regarder les circonstances en face et dire dans Romains 8, dire que, mais qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit dans la rue appelée la droite. Dans Romains 8, il dit ceci, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses que l'apôtre vient de citer, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes toujours vainqueurs. Il dit, ce n'est pas en tremblotant que je vous dis ça, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne vous tracassez pas pour demain, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quelque chose qu'il n'y a rien au monde qui peut vous faire perdre ça. C'est pour vous, pour l'éternité. C'est une force qui est en vous. Parce que quand vous arriverez là-bas de l'autre côté, quand vous demanderez à Job, frère, comment tu as fait pour tenir, il vous dira, frère, c'était par moi, c'était par sa grâce. Ah, toi aussi, c'était par sa grâce? Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est par sa grâce. Quand je regarde derrière moi, quand vous regardez derrière vous, vous pouvez réaliser combien la grâce de Dieu est immense. Paul pouvait regarder la mort en face. Une prophétie qui sort. Celui à qui appartient cette ceinture, voilà ce qu'on va lui faire une fois à Jérusalem. On va lui couper la tête. Les frères disent, frère, quand ce frère-là prophétise, c'est toujours par l'Esprit de Dieu. Alors, Paul, ne va pas à Jérusalem. Mais Paul dit, ce n'est pas ma tête, me couper la tête qui va me faire peur. Dieu veut que j'aille à Jérusalem, j'irai à Jérusalem. Acte 21, et nous allons prier. C'est une puissance. Une véritable puissance. C'est ce qui vous met au-dessus de tous vos problèmes. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, non seulement c'est une puissance, c'est aussi quelqu'un qui parle. quand il parle, que la lumière soit, la Bible rend le témoignage, la Bible est là et la lumière fut. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc, lorsqu'une prophétie pareille sort, cela ne veut pas dire nécessairement que Dieu ne veut pas que vous alliez là-bas. Mais comment savoir la volonté de Dieu ? Là, ça dépend entre votre relation et Dieu. C'est dans votre relation, c'est vous qui allez avoir raison. L'assemblée tout entière avait faux, mais Paul, dans sa relation avec Dieu, avait raison. Il devait y aller. Et c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que, on l'a souvent dit ici, souvent, les gens croient que nous venons juste pour remplir le temps, nos après-midi, ou nos soirées, juste pour avoir une église et nous donner bonne conscience. Que Paul et les disciples, les Pierre, ont apporté ça comme ça, comme un rôle, parce que bon, ils n'avaient plus quoi dire, non. Ils sont allés jusqu'à laisser leur vie pour montrer que ce qu'ils avaient avec Dieu était réel. Ils en étaient convaincus. Satan ne peut pas venir vous dire que Paul jouait à la comédie. S'ils sont allés jusque-là, c'est que ce qu'ils ont annoncé, comme ils le disent, ce ne sont pas des fables habilement conçues, mais c'est la véritable parole de Dieu. Amen. Et nous de même, il ne faut pas que lorsque une persécution vient, lorsque une tribulation vient, que nous abandonnions. Non. Pour que nous n'abandonnions pas, ne comptons pas sur nos forces. Si nous comptons sur nos forces, nous abandonnerons. Mais comptons sur la conduite de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Et pour cela, il faut que cette promesse s'accomplisse. Que cette puissance vienne en nous. Que la peur soit bannie. Que nous soyons pleins de courage avec, par le Saint-Esprit que Dieu nous a promis. Amen. Et nous allons prier. Aussi, qui veut le recevoir, ce Saint-Esprit. Maintenant, celui qui veut le recevoir, accordons-nous tous ici maintenant et prions pour que Dieu nous l'accorde. Si quelqu'un l'a déjà reçu, eh bien, qu'il prie pour celui qui est à côté de lui, qui n'a pas encore reçu, qu'il puisse le recevoir. On se donne la main, n'est-ce pas ? Spirituellement, et nous prions ensemble. Nous nous accordons sur ce point-là. Prions que l'accomplissement de la promesse du Père se fasse au milieu de nous. Prions. C'est la solution à tous nos problèmes. C'est l'exaucement de toutes nos prières. Nous pouvons être là comme ne possédant rien, mais nous possédons toutes choses. Une fois que ce feu descend dans nos cœurs, brûle tout ce qui doit être brûlé, nous baptise carrément, nous remplit également. Oh, à ce moment-là, nous avons la puissance, non seulement en dehors, mais également au-dedans de nous. Et c'est avec assurance que nous apportons le témoignage de Jésus-Christ. Comme cette Samaritaine a apporté avec assurance au milieu de ce village, on l'a regardé peut-être de travers, mais elle avait rencontré celui qu'elle devait rencontrer. Le Messie qui devait venir, le Christ. Et en ce qui nous concerne, nous allons même plus loin. Cette merveilleuse promesse que tu as faite, ce don merveilleux que tu nous ferais. Afin que nous puissions t'adresser nos prières par lui, afin que nous puissions te louer par lui, afin que nous puissions t'adorer par lui. Car il nous est dit que le Père recherche les vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas être de faux adorateurs. Accomplis cette promesse au milieu de nous. C'est pour nous, Seigneur, que tu l'as faite. Aussi, mon frère qui est là, qui te le demande. Ma sœur qui est là, qui te le demande. Que tu le rends, que tu la rendes obéissant et obéissante. Pendant que nous te demandons cela. Et que cela s'accomplisse. Si nous ne l'avons pas maintenant, si tu ne le fais pas tomber parmi nous maintenant, si tu ne le répands pas parmi nous maintenant, fais le même au milieu de tes enfants. Au milieu de tous ceux qui s'assembleront de près ou de loin, en invoquant ton saint nom, te demandant cela. Tu accordes cela afin que de ce lieu, la louange puisse en sortir par le Saint-Esprit. Et l'adoration puisse être faite par lui. C'est cela notre prière ce soir. Que nous soyons guidés par lui. Prends le contrôle de nos vies. Dirige nos pas, conduis-les. Et merci pour tout ce que tu fais, que tu as fait, que tu feras encore pour nous, afin que ce jour-là, nous ne soyons pas confus et nous soyons trouvés prêts. Te remercions pour ce moment que tu nous as donné. Te remettons les moments à venir encore. Que tu bénisses les bien-aimés. Tu bénisses ceux qui seront dans les maisons. Tu bénisses tes enfants. Si tu tardes à venir, que les réunions que nous aurons dans l'avenir, qu'elles soient remplies d'une atmosphère spirituelle, la présence du Dieu vivant au milieu de nous. Te remettons nos sœurs qui voyagent demain, que tu les bénisses et que tu les accompagnes. Au nom merveilleux, tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.